Le Yiddish, aujourd'hui. Chansons, musique, littérature, théâtre, événements, actualités. Avec Astrid Ruf et Annette Fern. Bonjour Astrid.
Bonjour Annette. On continue à parler de ce Leib Rachkin.
Absolument, et de ce
inconnu
livre.
Au bataillon, d'ailleurs.
Oui, absolument, mais qui mériterait d'être plus connu pour ce grand livre, cette saga, on peut dire, Les gens de Gödel Bogitz. Donc, un roman tout à fait foisonnant. Voilà, pour résumer, j'en ai parlé la semaine dernière déjà, mais donc c'est un roman écrit en yiddish, remarquablement traduit par Jean Spector, et qui commence à la guerre de 14-18 jusqu'aux années 30. Alors bon, ça c'est aussi, c'est pourquoi on se perd un petit peu dans ce roman, puisqu'il ne donne aucune date. Hein, donc on passe d'une époque à l'autre, finalement, sans que ce soit signalé. Donc il faut vraiment connaître soi-même un petit peu l'histoire de la Pologne, en particulier, pour se repérer. Donc ça commence à la guerre de 14-18 jusqu'aux années 30. C'est un roman foisonnant, avec énormément de personnages qui tous s'expriment de manière très très énergique, avec plein de jurons, plein d'expressions très très particulières, mais très bien traduites par Jean Spector. On peut vraiment le lire en français avec grand plaisir. Donc nous suivons un certain nombre de personnages. Donc le principal, c'est ce Shimen Chifris, qui est un jeune homme très doué, très intelligent, mais un petit peu
inconsistant.
Inconsistant, et surtout qui n'arrive pas à se décider, quoi, qui passe d'une chose à l'autre sans arriver vraiment à se fixer, en particulier dans ses amours. Hein, donc nous le voyons fréquenter trois jeunes filles, donc une jeune fille qui s'appelle Feigele, ensuite une Lola Ziegelman, qui est très riche, et donc il pourrait faire un beau mariage, mais en même temps, il s'éprend d'une jeune socialiste, d'une jeune révolutionnaire, Zosia Lerner, qui, elle, est beaucoup plus intelligente. Et donc, il hésite entre les trois, et puis à la fin, il se retrouve tout seul, finalement. Voilà, nous suivons aussi un jeune Shmuel, qui est comptable. Nous suivons aussi le frère de Shimon, qui s'appelle Nossen, qui, lui, est un socialiste, qui est tanneur et qui va mener une grève dans une tannerie. Et puis beaucoup d'histoires d'argent autour des nouveaux riches, autour des gens qui exploitent le peuple, y compris les rabbins. Donc là, il y a vraiment une description absolument impitoyable de tous ces gens qui s'enrichissent sur le dos des autres, avec aussi les grands changements qu'induit la guerre de 14-18, où finalement les riches sont ruinés, certains riches sont ruinés et d'autres, au contraire, s'enrichissent de manière souvent tout à fait immorale. Et puis aussi, nous voyons des sionistes. Voilà, donc c'est vraiment un tableau de cette société juive polonaise de l'époque. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais lire quelques extraits de ce roman très riche pour que vous en ayez un petit peu la saveur. Et puis, voilà, donc on peut pas le résumer. Alors voilà, donc là, nous avons justement le début. Donc le début, c'est un grand-père qui s'appelle Yehurem, qui est un homme très bien, en particulier extrêmement sociable et charitable, qui reçoit tout le monde. Il a un fils qui s'appelle lui-même Yehurem, qui épouse une jeune fille extrêmement religieuse et qui ne veut, bon, qui dit sa jeune, et je vous lis, sa jeune et pieuse épouse lui rendit la vie impossible avec sa pudeur, ses immersions rituelles à tout bout de champ, et il mit très longtemps à pouvoir mener avec elle une vie conjugale. Mais une fois que c'est fait, donc cette jeune fille est la fille d'un riche personnage, mais qui s'est appauvri. C'est pourquoi il accepte de marier sa fille avec quelqu'un qui est d'un milieu plus bas. Une fois que Yehurem et sa pudique épouse commencèrent à avoir une vie conjugale, on aurait dit que celle-ci s'était transformée en sac troué. Enele, c'était le nom de l'épouse, était en permanence enceinte jusqu'aux dents, et jusqu'aux yeux, pardon, on dit pas enceinte jusqu'aux dents, c'est moi qui me trompe, enceinte jusqu'aux yeux, et pondait des enfants autant qu'une chèvre laisse de crotte chaque année un enfant. Vous voyez qu'il n'hésite pas à employer des comparaisons un petit peu pas très élégantes. Après 12 ans de vie commune, il n'en manquait plus que deux pour faire la douzaine. Il y avait perpétuellement dans la maison des langes humides. Trois des petits oisillons étaient passés dans l'autre monde du fait de différentes épidémies. La petite vérole, la scarlatine, la diphtérie. Alors ici, c'est vraiment un exemple de la bonne traduction de Jean Spector, puisque en yiddish, on appelle des petits bébés, des enfants très jeunes, Eifele, qui veut dire petits oiseaux. Mm. Et donc, il a traduit par oisillon, qui va très très bien en français, quoi. Tout à fait à la fin, après une interruption de quelques bonnes années, il en acquit un tout petit vraiment chétif, un prématuré de 7 mois. Cela s'était passé en pleine guerre, donc nous sommes en plein dans la guerre de 14-18, alors que les grenades volaient au-dessus de la bourgade, dans la cave, au milieu des souffrances et des peines. Le père n'était déjà plus là. Les Cosaques l'avaient emmené en otage, puis l'avaient pendu en compagnie d'une dizaine d'autres juifs à côté de Prachnik. Voilà, donc là, le sort tragique des Juifs pendant la guerre de 14, que décrit aussi Sholom Aleichem dans les Contes des Mille et Une Nuits. Mais Hen-Hélène avait appris le drame, la mort de son mari en martyr de la foi, que plus tard, au moment de ses relevailles, et quand les Autrichiens étaient en ville, hein, donc cette alternance d'occupation autrichienne et russe pendant la guerre de 14. Elle accepta ce malheur dans une quasi-indifférence. Elle ne pleura pas, ne se répandit pas en gémissement, ne s'arracha pas les cheveux. Elle se mit à prier beaucoup, à réciter des oraisons d'une voix sèche. Elle priait le jour, elle priait la nuit, ses prières n'avaient pas de fin. Elle devint folle de chagrin, Hen-Hélène, la fille de Hitch et Wolf, et un jour qu'il n'y avait personne à la maison, elle se jeta du balcon et elle mourut dans d'atroces souffrances. Alors là, je me permets de dire que c'est quand même un peu contradictoire, ouais. Hein, puisqu'on dit qu'elle, finalement, elle accepte ça. Et puis, bon, c'est peut-être un des défauts de ce livre où il n'y a pas toujours une cohérence. Hein. Mm-hmm. Quelle situation, 11 enfants sans père ni mère. Le nourrisson fut confié à une paysanne à la campagne pour qu'elle l'élève. Quant au reste des enfants survivants, des membres de la famille les emmenèrent dans différentes villes. Le grand-père avait pratiqué la vertu d'hospitalité et ses petits-enfants mangeaient désormais sur un coin de table chez des étrangers. Quelle misère quand les parents sont dans la tombe. L'aîné des orphelins s'appelait Nossen et il était devenu un simple ouvrier tanneur. Le suivant s'appelait Shimon Chifris. Il avait une bonne plume, il suivit des études et fit carrière. Voilà, donc là aussi, vous voyez que le chapitre s'arrête avec une projection bien, bien lointaine dans le futur. Ah, mais c'est donc ces deux personnages que nous allons suivre le plus souvent.
Enfants,
les deux enfants, voilà, qui là sont encore de cette famille.
Ils sont encore petits.
Oui, ouais, mais... oui, c'est voilà, donc là, dans le chapitre suivant, donc voilà, les enfants arrivent chez la tante Mitch, qui a elle-même aussi pas mal d'enfants. Elle gémit amèrement sur le grand malheur arrivé dans le foyer de sa sœur et pensa aussi deux bouches de plus à nourrir. Parce que tout bien compté, les miens, les tiens, les nôtres, ceux des autres, ça faisait maintenant 11 en tout, 11 bouches à nourrir. Quelle misère! Et cette satanée guerre, et la mère dans la tombe, quel malheur! Et ces enfants, misère de nous! Et eux qui pourtant sont nés dans l'abondance. Voilà, donc cette tante va quand même s'occuper de ses enfants. Et là arrive un épisode qui est un peu plus souriant, je peux dire, qui va arriver à Shimon Chifris. Donc là, nous sommes dans une... Donc les enfants ont à peu près une dizaine d'années. Et nous sommes dans... Là, c'est les jeux des enfants, le Shabbat d'ailleurs, leur jour de repos, qu'est-ce qu'ils font? Ils se battent. Et donc, ils se battent à coups de pierre. Il y a deux groupes, je crois qu'ils jouent les Autrichiens et les Russes, quelque chose comme ça, et assez violemment. Hein. Et puis, le petit Shimon est un enfant très religieux, très sage, mais là, tout d'un coup, il se laisse entraîner. D'un seul coup, la peur quitta le petit Shimon. À l'image de son frère, un esprit guerrier prit possession de lui. Rapide comme une flèche, il franchit l'espace qui le séparait de Nossen, choisit les plus grosses pierres et les lança sans viser. Et au moment de la prise de la forteresse, le petit Shimon était au premier rang, lançant dans l'embrasure d'énormes galets, tel le Romain qui avait jeté une torche en flamme par la fenêtre du temple. Une fois que l'ennemi fut chassé et que Shimon se retrouva seul à être resté dans la forteresse, il essuya le sang qui coulait de sa joue. Du sang rouge qui lui fit penser « J'ai un trou dans la tête !» La blessure était peut-être douloureuse, mais ce n'est pas ça qu'il pensait à ce moment précis. Shabbos, il avait profané le Shabbos. Que dirait la tante? Que dirait son maître? Ah, Shimon, c'est comme ça que le mauvais penchant te conduit par le bout du nez, que tu te laisses faire? On laisse tomber la Mishnah, la Gemara, et on va jeter des pierres avec des voyous. Il était triste et plein de remords. Il était debout au milieu de la rue de la rivière, se tenant la joue d'où coulait encore un filet de sang, et les larmes lui montèrent aux yeux. Il n'avait pas remarqué la présence d'une jeune femme distinguée qui s'approcha de lui et essaya d'écarter sa main de la joue. Elle lui posa une question en polonais. Il comprenait, mais ne pouvait pas répondre. « Qui t'a fait signer comme cela ?» demanda la dame. Le petit ne répondit pas. Alors elle le prit par le bras et l'emmena avec douceur. Elle entra avec lui dans la pharmacie et demanda de la teinture d'iode. D'une main habile comme celle d'une infirmière, elle lui en badigeonna la joue et la tête et elle demanda « Tu voudras venir avec moi ?» La question était posée en yiddish avec l'accent lituanien. Elle s'efforçait de lui inspirer confiance par un gentil sourire. Le petit Shimon eut un profond soupir, en même temps leva pour la première fois les yeux sur la noble dame juive. La pharmacienne était impatiente de les voir repartir. Elle s'approcha de la porte vitrée et les suivit du regard aussi longtemps qu'elle put. Puis elle s'adressa à son mari. « Isidore, tu sais qui c'est ? Mais qu'est-ce que ça peut me faire ?» répondit grossièrement le pharmacien. Alors cette jeune fille est en fait de la famille Broderson, cette famille qui a été ruinée par les bolcheviks, et elle va proposer de donner des cours aux enfants, des cours de polonais pour savoir lire, écrire en polonais et peut-être arriver à avoir une meilleure situation sociale. Voilà. J'ai parlé longtemps, on va peut-être écouter une musique.
Oui, non, mais ça s'écoute bien, c'est agréable à entendre, donc ça doit être très agréable à lire.
Oui, ça se lit vraiment très bien et bon, je trouve que vraiment Jean a réussi à trouver des équivalents au yiddish qui le trahissent pas et qui vraiment se lisent très très bien en français. Mmh. C'est vrai que comme ce roman est très riche, c'est bien de lire comme ça des extraits parce qu'on peut mieux entendre des choses plus précises.
Cette langue et ces personnages. Alors je voulais trouver quelque chose qui soit anciens, qui sont en rapport avec l'époque où se passe ce roman. Et donc, j'ai utilisé ce CD auquel j'avais déjà consacré une émission entière, mais aujourd'hui, on va juste entendre quelques plages, qui s'appelle Ovus, donc les pères.
Hein, les patriarches.
Les patriarches, les ascendants. Les ascendants. Patriarche dans le sens biblique, quoi, mais les ascendants, nos pères à tous, quoi, père et mère. Donc, c'est cette chanson qui s'appelle « Hey Dunaï ». Alors là, il aurait fallu qu'elle soit plutôt en polonais. Désolée, elle est en ukrainien. Enfin, en ukrainien et en yiddish, les deux langues se mélangent. Alors, la spécificité de ce disque très, très intéressant, mené par Inge Manders au chant. Il y a d'autres musiciens, mais c'est vraiment elle qui est à la base de cette idée, de ce projet, qui est très, très intéressant. C'est de mélanger les enregistrements du passé. Vax, hein, l'ensemble s'appelle Vax, qui veut dire cire. Donc, elle utilise les enregistrements qui sont gravés dans la cire, avec la voix moderne qui s'imprime dessus. Et là, c'est ça ce qui se passe. C'est un dialogue entre un jeune homme ukrainien et la jeune fille qui parle en yiddish. Les deux choses se répondent. Voilà, ça s'appelle Hey Dunaï.
Thank you. Doberman ist jetzt nicht zu wetten. Hey, nein, hey, du, nein, jetzt nicht zu wetten. Der Doberman ist zu wetten. Nein, hey, du, nein, jetzt nicht zu wetten.
Voilà, donc, bon, ben oui, cette musique qui correspond tout à fait à l'époque, quoi, oui. Voilà. Donc là, nous allons voir comment le petit Shimon raconte l'histoire. Quand le petit Shimon s'en revint, il commença par fabriquer une histoire à l'intention de la tante, selon laquelle il avait fait une chute en se promenant dans la montagne et que Mademoiselle Broderson l'avait badigeonné de teinture d'iode, à preuve le petit morceau de chocolat et le mouchoir de batiste qu'elle lui avait offert. Elle avait aussi voulu lui offrir un morceau de gâteau. Mais Shimon, il s'en vanta, savait bien que même s'ils étaient juifs, les Broderson faisaient frire avec du saindoux, qu'ils mélangeaient le lacté et le carnet, c'est pourquoi il avait refusé d'en manger la moindre miette. Et Shimon de continuer. La Pani, la dame, voulait lui apprendre à écrire gratuitement. Elle lui avait montré un livre avec des petits personnages et lui avait demandé de lire. Il avait répondu qu'il ne savait pas, qu'il ne connaissait que les lettres. Alors, c'est elle, la Pani, qui avait lu et lui avait demandé de raconter. Il avait répondu en yiddish qu'il comprenait, mais qu'il ne pouvait pas raconter en polonais. C'est elle qui viendra te donner des leçons, sans qui la tante Mitche ? Non, c'est moi qui irai chez elle. Impossible, elle fera de toi un goy. La Pani a dit que tout le monde allait apprendre à écrire, dit Shimon. Mais toi, mon enfant, tu es différent. Tu es l'élève de Motele Perl Tzveves. Et c'est vrai qu'on décrit comment il étudie très sérieusement. Shimon, après avoir bien réfléchi, répondit comme un adulte. De nos jours, si on ne sait pas écrire, on n'est pas une vraie personne. C'est vrai, concéda la tante avec un gémissement. Rabbin, peut-être, qui sait. En tout cas, qu'il devienne un juif respectable. Voilà, donc ce Shimon va commencer à travailler chez cette jeune Broderson. Et puis ensuite, il y aura toute une école où en fait tous les enfants vont venir. Ah oui. Parce que bon, les parents sont quand même soucieux de leur donner une éducation et de faire d'eux des gens qui puissent s'insérer dans la société polonaise de l'époque. Alors là, le temps avance, hein, donc on est déjà dans les années 20, 25. Ah ben oui, puisque quand la mère est morte, ça c'était
à la fin de la guerre.
Et donc là, on est déjà, oui, on s'approche peut-être des années 30. Et donc les gens commencent à être plus ouverts. Hein. Alors là, il y a le samedi, le rabbin qui a fait à la synagogue un sermon sur le commandement de s'installer en Eretz Israël et sur le royaume de justice. par quoi il faisait allusion à l'Angleterre. Et donc là, il y a un discours très amusant qui fait vraiment penser au discours des Magidim qui disait qu'il faisait peur aux femmes pour qu'elles se comportent correctement. Mais là, il leur fait peur pour qu'elles donnent de l'argent pour Israël. Alors, je vais vous lire le discours du rabbin. « Quant à vous, femmes, je vous le déclare, il est écrit, « Voici ce que tu diras à la maison de Jacob. » Et là, on désigne par là les femmes à qui on doit s'adresser en premier, avant même les hommes. En Égypte, est-il écrit, les femmes ont eu ce privilège que c'est grâce à leur miroir donc on fabriqua le bassin à ablution du tabernacle. Mais plus tard, les femmes sont plus faibles en esprit, elles péchèrent en donnant leurs bijoux pour fondre le veau d'or. Jusqu'aujourd'hui, elles ne peuvent être absoutes de ce péché, et chaque accouchement difficile est un châtiment pour le péché du veau d'or. Aujourd'hui, alors que les signes du salut sont proches, que l'on entend déjà les pas du Messie, vous devez donner, vous, les femmes, vous racheter du péché du veau d'or, vous devez donner vos bijoux pour délivrer la terre sainte des mains des goyim, et grâce à cela, les mères juives auront des accouchements faciles et donneront naissance à des enfants mâles, et arrivera à Sion le Sauveur, et nous dirons Amen. Les pleurs qui avaient éclaté dans la section des femmes quand le rabbin avait rappelé le péché du veau d'or se transformèrent soudain en pleurs de joie. Des femmes qui depuis des années étaient fâchées avec leurs voisines à la synagogue tombèrent dans les bras les unes des autres. Après quoi, Tzimel la Cosaque sortit un mouchoir et s'exclama « Donnez, braves femmes, donnez vos bijoux pour Etz Israël !» Et effectivement, les femmes donnent, mais ce sont les femmes pauvres, et les femmes riches, elles, ne donnent rien, comme il le décrit avec humour, et puis aussi avec toujours un côté de critique sociale. Voilà, bah, le temps passe.
Donc c'est la faute des femmes uniquement, le veau d'or?
Elles ont aussi donné leurs bijoux. Il n'y a pas que les femmes, mais également les femmes, oui. De toute façon, tout le monde a été puni.
Si on fait une lecture féministe, merci. Et c'est pour ça qu'elles sont punies par les souffrances de l'accouchement.
Absolument, voilà.
Alors, je ne sais pas si on aura le temps de faire entendre entièrement, mais on va peut-être vous dire Shalom Aleichem. Et je vais juste introduire rapidement. Donc ça, c'est très intéressant. Ce sont deux plages l'une après l'autre. Shmuel singt a Freilers. Donc Shmuel, c'est un chanteur, peut-être un chantre, qui chante Freilers. C'est une danse, en fait. Hein, c'est la musique dont on a fait une danse. Et c'est suivi par un enregistrement instrumental sur le thème qu'il chante dans un premier temps. Donc ce sont deux plages qui se suivent, et on vous dit Shalom Aleichem à
la semaine prochaine. La 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 la